Pour notre 13e talk, nous sommes montés à bord du sublime Don du Vent, pour un moment suspendu. La gracieuse et subtile artiste-peintre Fanny Nouchka nous a partagé son parcours passionnant. Merci à Atelier Poupe d'avoir exposé ses créations et à nos partenaires Lillet et Oyat. Cette soirée fut un véritable enchantement. Et merci encore à Fanny et Benoît pour nous avoir accueillis sur leur navire. Belle écoute!
C'est un super plaisir de vous avoir ce soir à bord. C'est un peu... Vous m'entendez pas? Je vais essayer de parler, je vais parler plus fort. J'ai un peu l'impression de faire un hold-up ce soir parce que généralement quand les gens viennent à bord, on largue les amarres et après on part en mer. Et là, j'ai un peu l'impression de faire un petit délire égotique en disant « Eh ben non seulement on ne va pas partir en mer, et en plus, vous allez m'écouter, moi !» Donc, j'espère que ce ne sera pas un coucher de soleil et ce ne sera pas une sortie en mer, mais j'espère que ce sera quand même intéressant pour vous. Donc, on est à bord du Don du Vent. Je pense qu'il faut quand même que je commence par présenter le voilier parce que c'est l'écrin qui nous accueille ce soir. Et c'est un voilier qui... Donc, c'est le Don du Vent. C'est un voilier qui date de 1947, qui a été construit post-Seconde Guerre mondiale avec les pièces d'un chantier qui avait été nationalisé par l'Allemagne parce que pendant l'entre-deux-guerres, l'Allemagne n'avait pas le droit de se réarmer. Mais les coquins, ils avaient nationalisé des chantiers de pêche dans l'éventualité où justement il risquait d'y avoir une Seconde Guerre mondiale et pour pouvoir partir faire la guerre. Donc non, vous n'êtes pas à bord d'un bateau nazi, mais pas loin. Parce que celui-ci a été construit en 1947, donc post-Seconde Guerre mondiale, mais sur les plans de bateaux qui ont fait la guerre. Donc il y a des sister ships. Le sister ship, c'est des bateaux construits sur les mêmes plans, qui ont eu des tourelles anti-aériennes, qui sont allés faire du repérage. Voilà. Donc on est ravis que ce bateau-là n'est pas le passif nazi, parce qu'il était quand même plutôt pas facile à adopter. Mais en tout cas, il a la solidité de ces bateaux-là, et Deutsche Qualität, donc vraiment en construction allemande. C'est un bateau qui a toute une structure en acier et des bordées en chêne de 7 cm d'épaisseur. Autant dire que quand on va dans les calanques, c'est vraiment toute petite navigation pour lui parce qu'il pourrait affronter toutes les mers. Et ça fait partie d'ailleurs des projets qu'on a avec ce bateau-là, de naviguer dans des navigations bien plus complexes. On a une transat là, qui est prévue dans les années qui viennent, donc ça doit être un chouette projet. Johanna l'a dit, donc je m'appelle Fanny Nouchka. J'ai deux noms, et ces deux noms sous-tendent un peu la dualité de mon parcours. Donc il y a la partie corporate qui est Fanny, et il y a aussi Nouchka, mon parcours d'artiste. Et ces deux choses-là, ça fait partie de mon identité. J'ai toujours accepté de naviguer entre ces deux noms et de passer d'une identité à l'autre. Donc c'est parfois un peu sportif, c'est parfois un peu étrange pour les gens que j'ai deux prénoms, mais je les ai toujours assumés. Et même mon mari m'appelle parfois Fanny et parfois Nouchka. Ma fille, pareil, m'appelle aussi Fanny ou Nouchka. Donc je vais commencer par la peinture parce que c'est, je pense, la première de mes identités et que le bateau s'est rajouté bien plus tard dans ma vie. Donc je suis peintre, peintre à temps plein depuis maintenant 10 ans, mais j'ai toujours peint et c'est quelque chose qui a vraiment sous-tendu toute mon enfance. Je faisais partie de ces enfants qui gribouillent partout, qui font des coloriages, qui font des dessins, qui font du bricolage. Enfin, moi, je bricolais tout le temps et j'ai grandi dans un environnement qui était extrêmement favorable, extrêmement libre, extrêmement entourant, avec une maman qui était très 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 bienveillante et qui me laissait faire à peu près tout ce que je voulais faire. Et donc la peinture a toujours été très très présente dans ma vie. Il y a un moment charnière dans ma vie où je me suis mise à peindre pour de vrai et de façon un peu plus attentive que je le faisais précédemment. Vers mes 12 ans, j'ai rencontré une peintre qui s'appelle Maggie Seiner, qui était une amie d'amis de mes parents et qui faisait un dîner chez elle et qui m'a conviée via mes parents. Enfin, j'étais à ce dîner-là. Et comme c'est une femme qui est très caractérielle et qui est très charismatique, pendant ce dîner-là, elle en a eu marre de gens qui étaient là. Je pense que mes parents ne devaient pas être au niveau, je ne sais pas ce qu'elle s'est dit. Mais elle a appelé sa modèle et elle est allée peindre. elle dans son atelier. Et donc sa modèle est arrivée. Puis moi, j'étais la seule enfant à table. Et donc elle m'a conviée à venir avec elle dans, dans son atelier. Et là, j'ai découvert ce que c'était que la peinture. Et la modèle qui était là, qui était une femme sublime, s'est déshabillée. On s'est retrouvés en sous-vêtements rose cerise. Je me souviendrai toujours de ça parce que forcément, ça m'avait marqué du haut de ma petite adolescence. Et j'avais pas compris qu'en fait, ça pouvait être un métier. J'avais pas compris ce que ça représentait, le fait de pouvoir peindre des femmes comme ça aussi belles et puis de pouvoir partir d'un dîner qu'on avait organisé. Je me suis dit, mais c'est... En fait, c'est dingue. Et Maggie m'a donné des tubes de peinture, quelques pinceaux, quelques toiles pour pouvoir faire un tableau à côté d'elle. Ça lui a suffisamment plu ce que j'ai fait ce soir-là pour qu'elle dise à mes parents « Oh, she's gonna stay with me the weekend ». Donc mes parents sont rentrés, ils m'ont laissé avec elle et ça a été le début d'une très très longue relation d'élève à maître. Et c'est cette femme que j'ai toujours considérée comme mon mentor, qui est toujours mon mentor actuellement, qui m'a vraiment enseigné la peinture. Et à partir de là, la peinture a fait partie de ma vie. Je jouais du violon jusqu'à ce moment-là et j'ai vraiment troqué le chevalet de musique contre le chevalet de peinture. Et la peinture a vraiment commencé à faire partie de ma vie. Mais toujours tout en parallèle d'une scolarité normale avec des bonnes notes, une bonne élève, enfin vraiment le truc standard. Et donc, il y a déjà une dualité qui s'est créée à ce moment-là parce que parcours académique classique et la peinture à côté qui commençait à devenir sérieuse, qui commençait à devenir une vraie passion. Je commençais à montrer mon travail. Vers 14-15 ans, j'ai commencé à faire des portraits pour des gens, à vendre certaines toiles même. Et donc assez rapidement, la peinture est devenue quelque chose de sérieux. Y a quelque chose qui me vient à l'esprit aussi, c'est que quand on se raconte comme ça, le fait de dire les choses rétrospectivement, ça crée une sorte de linéarité dans le parcours, alors que les choses ne sont pas forcément aussi simples que ce que je vais les raconter. Forcément, le fait de devoir se narrer, ça crée de la linéarité là où les choses n'étaient pas forcément linéaires. En soi, et que je serais d'ailleurs devenue quelqu'un d'autre, je serais peut-être en train de vous raconter d'autres milestones avec d'autres histoires, pour forcément parce qu'on s'attache à des anecdotes qui sont différentes selon le parcours qu'on a. En tout cas, cette chose-là, ça a été primordial dans ma vie parce que c'est ce qui m'a fait comprendre que non seulement la peinture, c'était quelque chose qui pouvait devenir un métier, mais qui était aussi quelque chose de très sérieux. Et quand je dis sérieux, c'est... Il ne s'agit pas d'aller s'exprimer tout de suite, il s'agit vraiment d'apprendre à peindre. Et j'ai eu la chance de pouvoir apprendre la peinture aux côtés de cette femme-là. Comme finalement, on n'apprend plus vraiment la peinture quand on fait les beaux-arts ou quand on fait les arts appliqués, c'est-à-dire vraiment par le modèle, par le trait, par le dessin, par l'anatomie, par l'optique, quelque chose de très rigoureux, de très académique finalement, qu'on peut décrier parce que ce n'est pas forcément ce qui est le plus libérateur dans une considération artistique contemporaine, mais qui au final... m'a permis d'asseoir ma peinture sur un support, une base assez structurante et assez solide, dont je me libère au fur et à mesure du temps, mais qui au final qui était assez structurante. Et cette forme de rigueur dans l'apprentissage d'une passion, et ben c'est aussi quelque chose qui m'a servi dans la vie par ailleurs, et je pense que si j'ai continué d'être bonne élève par ailleurs, c'est aussi parce que j'avais appris la rigueur de ce côté-là et dans le fait de faire une passion avec application et avec sincérité, avec le meilleur de mon cœur, mais aussi avec application. Et donc j'ai continué à être bon élève, et tant et si bien que quand on est bon élève, le truc il suit quoi, et on sent vraiment que je choisisse mon parcours. Et j'ai fait Hippocagne, Cagnes, l'IEP d'Aix, et puis HEC à Paris. Et donc j'ai espéré un jour qu'il y ait une vocation qui me tombe sur le coin de la figure et qu'un matin, j'allais me réveiller et me dire « Ah, tiens, je vais avoir envie d'aller bosser chez McKinsey. » non, c'est jamais arrivé. Et parce qu'en fait, le système français est fait de telle sorte que forcément, on est sur des rails et on avance. Et tant qu'il n'y a personne qui vous dit « Réfléchis vraiment à ce que tu veux faire », on avance. Et j'avais pas trop eu l'occasion de réfléchir. En même temps, forcément, il y avait aussi la peinture qui était là en parallèle. Et depuis mes 17 ans, j'avais vraiment exposé de façon professionnelle. J'avais une première exposition à Détroit, j'avais une exposition, petite exposition à New York. Là où j'ai fait mes études, à chaque fois, j'ai continué de peindre, d'exposer. Ça devenait en fait de plus en plus professionnel, même au fil de mes études. Et, Il y a quelque chose qui, moi, m'a vraiment accompagnée dans le fait de prendre la décision, c'est quand je me suis rendu compte à 30 ans, quand j'ai remboursé mon prêt étudiant d'HEC, grâce à ma première exposition. Là, je me suis dit, il y a peut-être un truc qui n'est pas logique, quoi. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Et là, j'ai fait mon coming out de peintre et je me suis dit, bon, en fait, ça va, arrête tes conneries. En fait, tu veux être peintre et en fait, c'est toujours ça depuis le début. Et la raison pour laquelle tu n'as pas trouvé ta vocation ou la raison pour laquelle tu n'as pas trouvé ta boîte, la boîte qui va te correspondre, c'est en fait ça. Et donc ça a été le début de ma carrière de peintre. De façon concomitante, j'ai eu des chouettes nouvelles qui m'ont accompagnée dans mon cursus de peintre, comme le fait que Saatchi m'ait mis dans les 15 artists to invest in now, ce qui m'a permis d'exposer dans des galeries qui du coup sont venues me chercher. Voilà, donc c'est ce petit cercle vertueux qui s'est mis en place à partir de là. Et comme forcément je n'accompagnais pas le mouvement avant ça, ça ne s'était pas mis en place. Mais là, naturellement, les choses se sont mises en place, c'est allé assez vite. Et il y a eu 5 ans de vraiment non-stop d'exposition à Hong Kong, à Los Angeles, à New York. 5 ans hyper denses sur des projets tous plus intéressants les uns que les autres. Et on arrive à la deuxième chose qui a été un énorme tournant pour moi et qui me fait revenir du coup sur l'autre versant de mon activité, c'est la rencontre avec Ben. Avec qui, donc Ben, mon mari, qui est d'ailleurs, petite anecdote, donc pas ici parce qu'on est féminin, mais il a l'obligation légale d'être à bord, donc il est juste sur le bateau d'à côté, alors pas le bateau que vous voyez là, le bateau qui est juste derrière, donc il est là et il nous surveille, donc il n'est pas à bord mais il est pas loin, et c'est lui qui s'occupe de notre fille que vous avez peut-être croisé, la petite Constance qui est dans les parages aussi. Et donc quand j'ai rencontré Ben, Ben était marin, skipper, pour des bateaux de propriétaires. Donc il partait à droite, à gauche, longtemps. Et c'était un mode de vie qui nous correspondait bien parce que ça lui permettait d'avoir sa liberté. Ça me permettait d'avoir ma liberté aussi parce que ça m'allait bien, cette forme de disponibilité comme ça pendant des mois. C'est comme ça que j'ai pu partir 6 mois à New York alors qu'on était ensemble pour peindre et lui était en saison. Les choses se sont un peu gâtées quand on a voulu avoir un enfant. Là, du coup, c'était plus tout à fait aussi simple. Mais n'empêche qu'avant, quand même, on avait décidé qu'on s'ancrerait à Marseille. Et c'est Marseille qui a permis de rencontrer ce bateau-là, ce projet-là. Et c'est le projet de grossesse qui avait généré l'envie que les choses se passent un peu différemment parce que notre mode de vie très très libre, il ne pouvait plus fonctionner. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était plus possible qu'il fonctionne comme ça avec un enfant. Donc on a réfléchi à comment ça pouvait fonctionner et c'est là qu'a germé peu à peu l'idée du bateau. On a entendu parler du fait que le bateau était en vente et on a approché les propriétaires sans un copec. Enfin, nous, eux, oui, mais nous, non. Et ça s'est super bien passé. Ils nous ont, je pense qu'ils se sont un peu reconnus en nous parce qu'elle est photographe et que lui est marin. Et ils se sont vus 30 ans avant, je crois. Ça a super bien matché. Et ils nous ont dit, bon, on vous donne 1 an, rassemblez les sous. Et dans 1 an, on se retrouve si c'est bon, voilà. Branle-bas de combat, on a commencé 1 an pour chercher les financements, chose qui n'a pas été facile, mais qui s'est faite peu à peu parce qu'on a ficelé le projet, parce que j'ai accompagné Ben dans le projet, tout ça. Et c'est comme ça que le bateau est arrivé dans notre vie. Dans la conciliation des deux projets, forcément, il y a des choses qui sont plus compliquées avec la peinture parce que c'est extrêmement time-consuming, le bateau. Ça prend un temps fou. C'est une sorte de vampire qui vous absorbe dans tout le monde, ce qui fait qu'on ne parle plus que de ça, on ne pense plus qu'à ça. Il y a eu plein d'obstacles différents, plein de choses qui ont fait que le projet a été très complexe et très long. Et donc, vraiment, maintenant, j'ai à nouveau deux vies. Donc, ces tensions-là entre, d'un côté, la peinture et de l'autre côté, une autre vie, que ce soit celle de mes études normales dans un premier temps ou celle de cette entreprise-là avec mon mari. C'est vraiment un paradoxe, une dichotomie, un contraste voilà, qui me suit et qui m'accompagne toute ma vie. Et comme il n'y a que 24 heures dans une journée, c'est pas toujours évident à faire. Mais bon, je suis bien accompagnée dans le process. Et mon mari arrive à comprendre ces choses-là et arrive à lui aussi me dégager du temps. Donc c'est vraiment... Je pense que j'ai passé mon temps à chercher dans l'alliance des deux, la ligne qui fait qu'en fait, on n'est pas peintre ou on n'est pas entrepreneur, mais en fait, le parcours de vie qu'on a, c'est ce qui fait qu'on est nous-mêmes et c'est ça finalement qui est intéressant. Et plus ça va, plus j'arrive à comprendre que, en fait, j'ai toujours été comme ça, que ce soit à 12 ans quand je faisais du violon et de la peinture et du sport, voilà, et au final des études et de la peinture. C'est qu'en fait, peu importe le truc qu'on s'applique à faire, à partir du moment où on le fait avec cœur, avec joie, les rencontres que j'ai faites, c'est ça qui m'a permis de faire ces deux projets en parallèle. Donc, on revient à la peinture. La peinture, quand j'ai enfin compris, après tout l'enseignement que m'a apporté ma mentor, qui est donc Maggie Steiner, toute cette structure qu'elle m'a donnée, toute cette force de travail qu'elle m'a apprise, peu à peu, j'ai quand même réussi à cesser de faire du mauvais Maggie Steiner, parce que c'est quand même très longtemps ce que j'ai fait. Entre mes 12 ans et mes 20 ans, j'ai vraiment appris d'elle, et donc forcément, je faisais du mauvais Maggie Steiner. Et donc, peu à peu, j'ai appris à me libérer de ces choses-là et à écouter ce qu'il y avait en moi pour essayer d'aller vers des choses un peu plus personnelles. Et donc, comme en fait beaucoup d'artistes, je tends à essayer de sublimer ou oublier, peu importe la technique, pour aller vers des choses plus personnelles. Concrètement, cette force de travail, ça fait que je ne crois pas à l'inspiration et que tous les matins, je me mets devant mon tableau, je peins. Parfois, c'est raté, parfois, c'est pas raté. Mais en tout cas, je ne fais pas partie de ces gens qui attendent l'inspiration. Parce que je suis sûre et certaine qu'elle vient vraiment que quand on s'y met et qu'il y a des jours où ça fonctionne et des jours où ça ne fonctionne pas. Et ces choses-là, je ne les montre pas toutes. Forcément, il y a des toiles qui ne fonctionnent pas et il y a d'autres qui fonctionnent bien. En tout cas, je suis convaincue qu'il faut s'y mettre le matin. Je peins toujours dans un état un peu second. Donc, je mets toujours de la musique ou la bande-son d'un film que j'aime bien, que j'écoute qu'à moitié, en fait. J'ai appris d'ailleurs que c'était une forme de transe, en fait, cette façon de peindre comme ça, je le faisais tout sans le savoir. Et ça permet de mettre le cerveau sur off et de peindre avec des réflexes et avec des façons de faire très, très intuitives. Et on espère que tout le savoir que j'ai accumulé précédemment sous-tend le coup de pinceau que je crois être libéré, mais qui est en fait juste une libération momentanée d'un savoir acquis précédemment. Et concrètement, ma peinture, elle est extrêmement figurative. Je peins beaucoup de femmes. Je pense que c'est une peinture de femmes. Et une peinture profondément féminine. Non pas par les sujets, mais par la façon de faire. Et je peins toujours dans le miroir, parce que j'ai toujours besoin de prendre du recul. Donc en fait, ma toile est devant moi. Et je me retourne pour regarder ce que ça donne dans le miroir. Non seulement pour voir le tableau à l'envers, mais en plus pour le voir de plus loin que ce que je le verrais s'il était en face de moi. Il se trouve qu'en plus, je suis myope et que je peins sans lunettes. Alors, les gens peuvent dire que je fais une peinture de myope, mais c'est vrai. Et en fait, si vous voyez les peintres, ils font souvent ça, comme ça, pour essayer de voir les choses de façon trouble. En fait, c'est pas pour les voir troubles, c'est pour voir l'essentiel et se détacher de tous les détails. Bonne philosophie de vie aussi. Et cette façon-là que je peux avoir, du coup, de me retourner pour regarder les choses dans le miroir, ça fait que, du coup, quand je mets une touche de peinture sur la toile, elle ne vise jamais à dessiner la personne qui est en face de moi ou le modèle que je suis en train de faire, mais à évoquer par la couleur une forme qui vient peu à peu se définir sur la toile. Ce qui fait qu'on n'est jamais dans la stricte représentation, même si ce terme me fascine parce que j'adore l'idée qu'on puisse représenter les choses, mais je ne suis jamais dans la représentation, je suis toujours dans une forme d'évocation et j'essaie de surfer le plus loin possible avec l'abstraction pour essayer de perdre la figuration et que si on passe devant la toile, on se dit bah c'est que des taches de peinture en fait, et que quand on s'éloigne, enfin peut-être on peut remarquer une forme de figuration. Mais cette forme de simplification à l'extrême va, je pense, un jour m'amener vers l'abstraction, comme beaucoup de peintres d'ailleurs qui tendent toujours vers l'abstraction. Et ça permet de, ça me permet à moi aussi de me libérer de cet enseignement de la peinture qui était très axé sur une forme de prouesse technique dans la figuration et dans la représentation. Et cette chose-là de la prouesse technique, bah d'abord pour moi elle est relative, et puis elle devient de plus en plus négligeable. Enfin, je pense que c'est la vieillesse qui parle. Mais cette idée de performer, de faire des choses qui sont toujours une pirouette, toujours une performance, plus ça va et moins ça m'intéresse en fait. J'aime l'idée que les choses sont sous-tendues vers... vers une personnalité, vers une douceur, et que ces choses-là vont finir par transparaître, et que la figuration ou pas de figuration, en fait, ça n'a pas vraiment d'importance. Pour juger ma peinture, il y a vraiment que moi, il y a des choses que je ne montre pas, et ça, quand je ne les montre pas, il n'y a personne qui les voit. Ensuite, oui, c'est qui décide de quand une toile va être exposée, bah c'est le broker, que ce soit un agent, que ce soit un galeriste ou un commissaire d'exposition, c'est toujours cette personne-là qui va choisir tout ça. Pour l'instant, j'ai été suffisamment chanceuse pour travailler par projet uniquement, donc autour d'un thème, et de me lancer sur un thème pendant 6 mois, 1 an, et de travailler autour de ce thème et de pouvoir présenter l'exposition. Donc en fait, grosso modo, sur des cartes blanches jusqu'à présent. Donc ça, c'est un énorme luxe, parce que je sais que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Mais je continue de faire en parallèle toujours des commandes. Je travaille aussi sur commande, et c'est des choses qui me plaisent pas mal aussi, parce que comme je suis venue à la peinture par le portrait, en fait la première chose sur laquelle on m'a dit « Ah tiens, elle est douée celle-là », c'était vraiment par le portrait. Très rapidement, vers 11-12 ans, on s'est rendu compte que quand je peignais, j'arrivais à choper la personne et à ce que les gens disent « Ah bah mince alors !» Bah c'est vraiment elle. Et pas sa cousine, et pas son frère, et pas son... Non, elle. Et ça m'a plu. Parce que s'il y a quelque chose d'un peu magique dans le fait de pouvoir représenter quelqu'un comme ça assez rapidement avec quelques coups de pinceau. Et du coup, je suis allée très loin dans la recherche de ce qui fait la ressemblance et de ce qui fait le fait que, en fait, bah oui, c'est toi. Et non, c'est pas ton cousin, c'est pas ta sœur, c'est pas ta voisine. Et voilà. Et donc, cette forme-là de comprendre ce qui fait que ce qui fait la ressemblance, ça m'a toujours fascinée. C'est ce qui fait que je continue de faire maintenant des commandes, parce que ces exercices imposés en fait me rappellent à ma première façon de faire, qui était donc le portrait. Ce qui me fait penser aussi d'ailleurs que cette façon que j'ai de peindre et de chercher ce qui fait une personne, ça vaut d'ailleurs aussi pour l'architecture ou pour un bâtiment, cette façon d'aller à la simplification, quand ça s'applique au modèle, quand ça s'applique aux humains. Ben là, ça devient vraiment intéressant, parce que toute la somme des choses qu'on a vues, toute la somme des choses qu'on a lues, qu'on a entendues, des gens qu'on a rencontrés, c'est ce qui fait l'unicité de notre point de vue et notre façon de percevoir. Quand je te vois te tenir comme ça, ben je me dis, ben voilà, ça va être quelque chose qui va marquer ton personnage. Et finalement, ce sera peut-être plus intéressant de signifier cette position, qui est peut-être une position récurrente chez toi, plutôt que de la chercher une stricte ressemblance entre les items de ton visage. Et quand on apprend aussi la peinture, comme moi je l'ai apprise, on apprend aussi assez rapidement que, en fait, ce qu'on appelle les items, donc les yeux, la bouche, le nez, les oreilles, c'est pas ce qui fait la ressemblance, c'est pas ce qui fait que c'est moi, c'est pas la forme de mes yeux, c'est pas en fait c'est la distance entre chacun de ces items. Et quand on réfléchit comme ça au fait que l'interstice entre chaque item est plus important que l'item en soi, c'est pareil, c'est à nouveau, c'est aussi une forme de philosophie. L'idée que l'interstice est plus important que la chose en elle-même, moi, je trouve ça fascinant. Et quand on va vers une simplification, en fait, on s'attache du coup à voir les choses non pas comme un regard, mais en fait comme une forme d'architecture. Et si on arrive à choper l'architecture et à percevoir la personnalité, et bien finalement, le tableau va être plus ressemblant, même s'il est moins vraisemblable, mais il va être plus ressemblant que si on avait fait une stricte copie de la photo qu'on a reçue. Et donc ça, forcément, ça vient aussi par une posture d'humilité vis-à-vis du sujet, pour apprendre à le connaître, pour apprendre à le découvrir, et pour surtout comprendre comment ça fonctionne, ce putain de corps humain. Qu'est-ce qui fait que, voilà, que le, truc qui va se poser là, la chair exactement comme ça, et l'os qui sous-tend tout ça, voilà. Pour vous donner un peu une idée de quel genre de personnage mon mentor est, elle a estimé autour de 30 ans qu'elle avait atteint un plateau dans sa peinture, et ça l'a rendue cinglée, et elle a décidé de faire médecine pour étudier le corps humain, étudier l'anatomie, et elle a poussé le vice jusqu'à continuer pendant des années à préparer les corps dans les morgues où les étudiants venaient étudier les corps pour pouvoir comprendre exactement comment était fichu le corps humain. Moi, j'ai une approche qui est beaucoup moins pratique, tangible, parce que justement, je suis convaincue que c'est pas nécessairement en allant creuser l'intérieur du corps humain qu'on va mieux comprendre comment il fonctionne, mais c'est peut-être justement plus en les rencontrant, en discutant avec eux, qu'on va réussir à comprendre leurs attitudes, leur manière de se tenir, la façon de fumer une cigarette, la façon de passer de la main dans les cheveux, qui au final sont profondément sociales, qui ne sont surtout pas arrêtées, surtout pas figées, qu'on ne pourrait pas décomposer sur une table d'anatomie, mais qui, moi, m'intéressent plus, en fait. Mais cette façon qu'elle a eue, elle, d'aller chercher la réponse dans le corps humain, bah, c'est un peu une métaphore de sa démarche à elle, de cette façon très jusque-boutiste d'aller chercher la réponse à sa question. Moi, j'ai une façon qui est beaucoup plus douce et beaucoup plus, peut-être plus humaniste, enfin plus sensible, en tout cas, je crois, que la sienne. Mais à mon avis, c'est le même mécanisme. C'est comment ça marche. Comment ça marche la ressemblance, comment ça marche la vraisemblance, et qu'est-ce qui fait qu'on va être attiré par un tableau ou pas. Ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont propres à chacune. Et je suis sûre qu'il y a des points communs dans ces façons d'aborder les choses, et le fait de vieillir et de rencontrer des gens et d'apprendre à les comprendre, ça m'aide dans ma peinture. Et ça fait partie aussi des choses qui ont été fabuleuses avec ce projet-là, c'est que ce projet de bateau, qui est donc devenu un projet de vie, je vais dire à temps plein, mais non, parce que c'est que la moitié du temps, mais c'est quand même un projet à temps plein, ça m'a aussi permis de rencontrer plus de monde en l'espace de 2 ans et demi que je n'en avais rencontré dans toute ma vie précédemment. Et ça, c'est une belle leçon aussi, parce qu'il ne faut pas se blaser, parce qu'il ne faut pas... Il ne faut pas se tenir à l'écart, il faut accepter de rencontrer, de comprendre. Voilà. Et puis, la diversité des gens qu'on a pu rencontrer, ça a été extrêmement enrichissant pour nos vies personnelles, en tout cas. Un peu fatigant aussi, parfois, mais hyper intéressant. Et là où les deux projets se rejoignent parfois, c'est que forcément, quand j'étais à bord, j'ai appris à comprendre le bateau. Le bateau n'était pas mon univers au départ. Je ne fais pas partie de ces gens qui ont navigué depuis tout petit, tout ça. J'ai vraiment découvert la navigation avec Ben au moment où on a acheté le bateau. Enfin, j'avais fait quelques navigations avec lui précédemment sur quelques bateaux, mais j'y connaissais pas grand-chose. Et le fait de naviguer avec lui, le fait de comprendre comment le bateau fonctionne peu à peu, même si je pense que ma fille qui a 5 ans s'y connaît mieux que moi, quand même ça a formé mon œil, ça m'a permis de comprendre plein de choses, et surtout, et là ça fait partie des projets que j'ai en tête aussi, ça m'a permis de découvrir les calanques. En fait, j'avais pas bien compris les calanques. Oui, je voyais que c'était très beau, mais j'avais pas compris, et le fait de les découvrir sur ce bateau là le fait d'y aller, c'est autre chose. Ça m'a permis de comprendre à quel point c'est onirique, c'est ontologique, c'est structurel, enfin c'est calanque, c'est sublime. Et je pense que ça fera partie des choses qui vont être mon projet de l'hiver, là, c'est de me mettre à peindre les calanques. Je pense pas qu'on ait un métier, je pense qu'on a une façon de vivre les choses, et grosso modo, on reste le même, quel que soit le job dans lequel, quel que soit le boulot qu'on a, on a cette façon d'aborder les choses. Et donc, j'ai pas vraiment l'impression que ce sont deux cerveaux différents, c'est vraiment plus une façon d'être, et donc ça ne me pose pas de problème de peindre le matin et de faire visiter le bateau à quelqu'un l'après-midi. Là, je pense que j'ai atteint le summum de paroxysme du grand écart quand on a fait une sardinade ici à bord. Il y a une dame qui voulait faire une sardinade, sauf qu'on avait oublié de commander les sardines. Donc je me suis retrouvée à acheter à la poissonnerie 6 kilos de sardines, et j'étais au téléphone avec le GIGN pour l'organisation de leur soirée qu'ils vont faire. Donc demain soir à bord ici, il va y avoir le GIGN qui va faire une intervention furtive. Et donc j'étais avec le chef d'escadron au téléphone en train de définir les détails de l'organisation de la soirée tout en achetant mes sardines. Et juste avant, voilà, j'avais eu un appel de mon agent qui me disait que les tableaux étaient bien arrivés à New York et tout ça. Je me disais, ouais, c'est ma vie est intéressante, c'est varié. Voilà. Mais j'adore ça et cette façon-là, quand les choses sont drôles comme ça. Oui, de toute façon, il faut prendre les choses, je les prends à la légère et je trouve ça toujours drôle de me retrouver dans des situations comme ça et je le vis plutôt bien. Même si de temps en temps, je craque et que je me dispute avec mon mari parce que forcément, c'est trop parfois d'avoir à gérer tout ça et vous le savez tout très bien. On se fait des nœuds au cerveau et puis y a des jours où on n'y arrive plus et ça rend plus, ça marche plus, ça veut plus et on se met à en vouloir à la terre entière. Et dans ce cas-là, il faut que j'arrête tout, il faut que je fasse une pause et après les choses reviennent. Mais globalement, j'aime bien quand c'est très touffu, très intense et qu'on passe d'une chose à l'autre comme ça sans transition. Mais oui, ça m'est arrivé d'en vouloir à la terre entière. Là, récemment, mon psy me disait que personne va venir ni te féliciter, ni te sauver de quoi que ce soit. Si tu ne trouves pas les modalités pour te sortir de ça, tu ne vas pas y arriver. Et du coup, ça a fait son petit chemin. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est vrai. C'est à moi de trouver les chemins de ma liberté. Là, par exemple, c'est ce qui m'a permis de prendre conscience du fait qu'on avait besoin d'embaucher pour le bateau. Parce qu'en effet, il y a réellement besoin d'un poste supplémentaire. Et sans cette petite étincelle qui m'avait fait me dire, c'est à moi de trouver les modalités de ma propre liberté ou d'un tout petit peu plus de liberté. C'est à moi de m'organiser, à moi de prendre les devants pour faire en sorte que mon équation à moi fonctionne un petit peu mieux. Ouais, sans ça, je pense que j'aurais été dans une impasse qui aurait fait que je me serais sans doute disputée avec Ben un de ces soirs, c'est sûr et certain. Parce que t'entends, ça coince, en effet, forcément. Mais bon, ça coince chez tout le monde, j'espère. De temps en temps, parfois, ça coince, voilà. Alors, j'ai deux agences. Une agence qui me propose des commandes régulièrement, que j'honore, il doit y en avoir 2-3 par an. C'est comme ça que j'ai pu faire la commande du club d'Arsenal. Donc j'ai peint le club d'Arsenal. Comme ça, je sors totalement de ma zone de confort. Et je vous montrerai, si vous voulez, les photos du club d'Arsenal. Ils sont tous très contents. Ils sautent avec leurs jolis petits maillots. Et c'est pas du tout ma cam, mais j'étais hyper touchée de me prêter à ce jeu-là parce que c'est un exercice imposé qui est très chouette. C'est eux qui m'ont aussi trouvé... j'ai fait un tableau d'après une photo du mariage des producteurs de Downton Abbey qui se sont mariés dans l'abbaye de Downton. Voilà, donc c'est vraiment des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et ça, c'est le genre de commande. J'en ai quelques-unes par an. Et en parallèle, il y a aussi des gens qui travaillent sur des projets plus long terme avec moi, sur des projets comme celui que je viens de finir là. Je viens de finir 14 tableaux pour l'hôtel Fouquet's qui m'a commandé des tableaux qui se veulent dans un esprit très français, vieille Europe, tout ça, et qui vont être donc exposés en permanence dans la salle de bal de l'hôtel Fouquet's qui ouvre à New York. C'est eux aussi qui m'avaient trouvé le projet avec Folio Society, qui est une maison d'édition anglaise, qui m'a demandé de faire une illustration de Madame Bovary. Donc 11 tableaux pour illustrer dans une très belle édition Madame Bovary. Donc à nouveau, à chaque fois, là, on parle de projets qui durent plus ou moins un an. Et là, en effet, ça tombait parfaitement bien parce que le dernier projet s'est arrêté mi-juin, ce qui a coïncidé avec le début d'une saison bien chargée. Et donc là, moi, je n'ai pas peint depuis juin et je commence à pouvoir envisager à nouveau de me remettre à peindre. Et grosso modo, je suis en train de me faire à l'idée que la peinture, ce sera l'hiver et le bateau, ce sera l'été. Si ce n'est que dans les années qui viennent, sur un moyen terme, j'ai bien envie de pouvoir faire en sorte de prendre du recul sur l'activité du bateau pour pouvoir n'avoir plus qu'un rôle de conseil ou de stratégie, dans les grandes lignes en tout cas, parce que j'aime beaucoup ça, et pouvoir plus faire plus de tableaux, plus de peintures, et me consacrer plus à mes projets perso. Donc plus retourner vers un 70-30, là où pour l'instant c'est un vrai 50-50. J'y trouve pas mon compte totalement. Ça va parce que c'est temporaire, mais je serais contente de retrouver un 70% pour mon temps. Dans les projets du bateau aussi, parce que quand même, il y a cette partie-là aussi. Donc on a acheté le bateau il y a 2 ans et demi. Et la date à laquelle on a acheté le bateau, c'était le 15 mars 2020. Donc ça parle peut-être à certains d'entre vous. C'était un moment sympa, plein d'espoir et de réjouissances variées. Donc on est, tout le monde dit « Ah, génial, vous avez fait le confinement à bord !» Alors oui, c'est vrai, c'était le confinement à bord, mais c'était le pire moment de notre vie parce qu'on venait de s'endetter jusqu'au cou et sur un projet avec un business plan qui était taillé au cordeau et qui devait fonctionner tout de suite. Et c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Surtout qu'on a oublié, mais s'en est suivi, après le confinement, s'en est suivi quasiment 2 mois d'interdiction de navigation. Donc ça a été double peine pour nous parce qu'à la fin du confinement, tout le monde faisait la fête et nous était là « On veut toujours pas sortir !» Et donc ouais, l'année 2020 a été un peu sportive malgré tout. Elle a été un succès, on a quand même réussi à faire tout ce qu'on a voulu faire cette année-là, suffisamment bien pour que l'année dernière on puisse acheter un deuxième bateau. Donc le Don du Vent a maintenant une petite sœur qui s'appelle Eleanor Marie, qui est derrière le bateau qui est juste là. Donc là il y a un bateau qui s'appelle le Favori et juste derrière il y a Eleanor Marie, sur lequel est donc Ben, mon mari, avec Constance, il nous surveille. Et ça, ça a été aussi un second volet du projet bateau qui était qu'à moitié prévu, mais qui est... Enfin, on est ravis de l'avoir fait, mais c'était un peu de la folie aussi de se lancer dans ce truc-là alors qu'on sortait à peine de la tête de l'eau. Une expression que je devrais éviter, mais bon, c'est pas grave. Et c'était... Voilà, c'était beaucoup. Surtout que ce bateau-là est un bateau anglais qu'on a acheté donc post-Brexit. Donc je vous laisse imaginer les difficultés administratives qui s'en sont suivies. Donc, plus aucune pièce du bateau qui était reconnue par les normes. Voilà. Donc, grosso modo, pour la faire simple, l'achat de ce bateau-là et la francisation, parce que la francisation d'un bateau, c'est à peu près comme la nationalisation d'un étranger. C'est extrêmement complexe. Et il a fallu... C'est comme si on avait fait construire le bateau. Chaque pièce a dû être réexaminée, refaire des études de stabilité. Rien n'était valable. Donc, j'y ai passé mon hiver, parce que l'avocat m'a dit... 500 € de l'heure, donc ça va être compliqué. Donc je me suis dit non, je vais le faire moi. J'y ai passé 3 mois et ça a été très intense. Ça a été de l'ordre de l'enquête, vraiment. Le bateau a été construit au Canada, donc j'ai dû appeler des chantiers au Canada pour essayer de retrouver les plans, mais forcément il y avait un incendie, des trucs brûlés. Donc je vous passe les détails, c'est très fastidieux, mais ça a été c'était 3 mois d'une plongée intense dans les méandres administratifs d'un monde que je ne connaissais pas bien, mais que j'ai appris à connaître. Et donc maintenant, il y a 2 bateaux. Donc ça, c'est une vraie fierté et c'est aussi un vrai challenge parce qu'il y a tout un tas d'enjeux qu'on tend à oublier quand on parle bateau parce qu'on voit la navigation, voilà. Mais d'abord, il y a la partie entreprise qui est colossale. Et puis, il y a la partie attenante aux problématiques de francisation, de place de port, d'agrément des calanques. Là, il se trouve que ce bateau-là, on veut aussi lui donner le label de bateau d'intérêt patrimonial, donc ça fait encore des choses supplémentaires. Et tous ces enjeux-là créent des tensions, des obligations d'être en lien permanent avec les institutions qui sont les acteurs qui fournissent toutes ces choses-là. Donc il y a toute une partie de compréhension du secteur. Comprendre comment ça marche les places de port, qui est l'interlocuteur, pourquoi est-ce que la métropole peut ou pas donner une place. Enfin, c'est aussi très, très compliqué. Il y a quelque chose de, alors je ne vais pas dire politique parce que ce n'est pas exactement ça, mais de l'ordre de la compréhension du territoire et de la politique locale pour pouvoir s'implanter correctement. Et ça, c'est un aspect du métier que j'avais totalement sous-estimé, que je ne soupçonnais pas et qui est pour le coup capital. Surtout quand on a une ambition de devenir un acteur local important dans le sens sain du territoire. Quand on a envie de faire des choses pour son territoire et de vrai pour le territoire, parce que c'est notre ambition avec les voiliers. Que ce soit en s'impliquant dans toutes les actions liées au parc national des Calanques, à la protection, à la sensibilisation. On tente d'œuvrer pour faire en sorte que ce bateau ne soit pas que un outil de travail au sein d'une entreprise, mais qu'il ait du sens dans un projet qui est le nôtre, de s'inscrire dans un territoire local et d'emporter avec nous des associations et de rendre aussi à la population. Là, on a fait tout récemment un partenariat avec le MUCEM, pour emmener des gamins des quartiers au MUCEM dans l'action qu'a faite le MUCEM qui s'appelait Tous au Musée. Et ben ça, c'est des choses qui nous tiennent à cœur. C'est pas forcément ce qui est le plus rentable pour nous, mais ça n'a aucune importance. Et on tient à ce que l'entreprise continue d'être porteur de sens et de véhiculer des choses qui correspondent à nos valeurs, même si ce mot-là est parfois un peu galvaudé, mais en tout cas des choses qui nous correspondent, quoi. En effet, ça laisse peu de temps pour la peinture. Mais après, je dors pas beaucoup. Ouais. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de paramètres qu'on peut enlever. Donc oui, j'ai rogné sur le sommeil pendant un moment. Et je pense que... Puis il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas mégoter. Il y a ma fille qui, pour le coup, est là. Et ça, on ne mégote pas. Donc oui, ça fait beaucoup de carrière. Même si la carrière de maman n'est pas très porteuse. Enfin, en termes de reconnaissance sociale, la carrière de maman, même si c'est la plus belle des carrières, c'est pas forcément celle qui est la plus valorisée. On devrait le mettre sur notre CV, je trouve. Maman. Franchement, oui, on devrait le faire. Entrepreneuse maman. Parce que je pense que franchement que c'est ça, hein, d'être maman. Ouais. Ouais, donc non, ça laisse pas beaucoup de temps pour la peinture, mais j'y arrive. Je sais pas trop comment, mais j'y arrive pour l'instant. Entre mes 20 ans, entre disons mes 18 ans et mes 28 ans, j'avais que des certitudes, que des ambitions, un ego comme ça. Et ben, il n'y a plus grand-chose. Mais je pense que c'est pour le mieux. Et je pense que c'est vraiment ce qui me permet maintenant d'arriver justement à jongler avec tout ça. Parce que je suis plus patiente, je suis plus tolérante, je suis plus curieuse aussi. Parce que par nécessité, on se rend compte que son nombril, ça va bien un temps. Mais en fait, c'est pas si passionnant que ça. Et ça m'a permis de me tourner vers les autres, en fait, ces trois métiers-là, et de me décentrer, ce qui est plus intéressant que de se focaliser sur soi-même. Et puis, il y a un truc qui me revient à l'esprit aussi, qui est un matin, après une énorme soirée, où on avait fait la fête toute la nuit, un pote au brunch, je ne veux pas dire au petit-déj, parce qu'il ne devait pas être très tôt, il avait dit la monomanie, c'est vraiment s'interdire d'arriver à son objectif par d'autres chemins. Alors, je ne sais pas d'où il avait sorti ce truc-là, mais je m'étais dit, mais c'est tellement, tellement incroyable ce truc. Et je l'ai souvent, souvent en tête, et souvent je me dis, mais oui, en fait, quand on est monomaniaque, on met des œillères, on oublie de regarder ce qu'il y a à côté, et je l'ai souvent fait. Enfin, plus jeune, en tout cas, je le faisais, c'était objectif et ligne droite et rien sur les côtés. Et là, nécessairement, j'ai dû composer et accepter que, hop, c'est le bateau, et hop, c'est maman, et hop, c'est la peinture. Et en fait ça marche quand même. Ça marche quand même. Il faut être souple. Un coming out que je n'ai pas fait, c'est vis-à-vis d'eux, en effet. Je ne leur ai pas dit, je suis chef d'entreprise, j'ai des bateaux. Parce que ça, déjà que maman, j'exagère, quoi. Donc là, je pense que si je leur dis ça, ils risquent de... Non, ils ne vont pas comprendre. C'est un métier où... d'ailleurs, ce n'est pas un métier, je pense que c'est comme ça dans tous les métiers. Ce n'est pas très valorisé, le fait d'avoir plusieurs casquettes. C'est comme si soudain, le fait d'en avoir une deuxième, ça abîmait la première. Alors que, au contraire, je trouve que c'est nourrissant. Et puis qu'on sait très bien que maintenant, les changements de carrière, ça arrive parce que justement, on n'est pas monolithique. Et qu'on peut avoir deux aspirations concomitantes, même si parfois elles sont paradoxales. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui fait que... Voilà. Mais ce n'est pas encore totalement admis qu'on puisse être... j'allais dire une connerie. Qu'on puisse être présentateur de JT et écrivain, ou homme politique et écrivain. Ah non, mais si, ça, il n'y a pas de problème. Des choses plus abstraites, ouais. Être comptable et musicien. Ça va être très très bien, sauf quand le patron, il apprend qu'on est musicien et que ça risque de grignoter sur les heures de travail. Donc non, les agents, ils savent pas que... Ça peut aller de quelques heures, 8 heures, à 3 semaines à raison de 8 heures par jour. Et c'est pas nécessairement celui sur lequel j'aurai passé le plus de temps qui sera le plus abouti, parce que justement, comme ce que je peins va vers une simplification, et j'essaie toujours d'imaginer qu'il y a une sorte de nombre de pinceaux, de coups de pinceau qui font un tableau parfait, et que si j'abîme ces coups de pinceau-là en repassant, en fait, parce que le CTRL Z, ça n'existe pas en peinture, et ben en fait, c'est moins bien. Donc l'idéal, c'est de réussir. Mon fantasme, ce serait de faire un tableau en 10 coups de pinceau et qu'il suggère, montre, évoque des matières, une atmosphère, une odeur. Voilà. Bon, en 10 coups de pinceau, c'est pas possible, mais c'est ce serait mon objectif fantasmé, quoi. Un tableau, c'est un microcosme, et c'est comme les pièces d'un puzzle, qu'on les construit petit à petit. Et donc, si je m'arrête et que je le regarde après, et je sais plus où j'en suis. Il faut que je retrouve le fil, et donc faut pas que je m'arrête. D'ailleurs, ça fait partie des choses que j'ai de moins en moins, c'est des marathons peinture. Avant, je faisais des tunnels de peinture de plusieurs jours, et ça, forcément, avec ma vie de maman et ma vie, je les trouve de moins en moins. Mais quand même, j'ai réussi, il y a un an, à partir un mois à Venise pour ne faire que peindre. Et j'ai mangé debout devant le frigo du riz à peine cuit, mais je m'en fichais, parce que l'objectif, c'était vraiment la peinture, et surtout pas cuisiner, surtout pas dormir, et surtout pas voir des gens. Et donc j'ai fait un mois de marathon peinture à Venise extraordinaire dans un lieu qui était fou, avec une amie à moi qui est écrivain et avec qui on a fait en parallèle, du coup, parce qu'on avait du temps, en parallèle de ma peinture, on a fait un roman photo. On était confinés là-bas pendant un mois, c'était assez extraordinaire. Peut-être que j'ai pas encore simplement assumé le fait que j'avais le droit et qu'il fallait que je le dise. Peut-être qu'en fait, il réagirait très bien et que c'est moi qui suis pas encore totalement au clair avec ça non plus. Enfin, c'est peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais l'impression que j'ai quand même, c'est qu'il risquerait de mal encaisser le fait que, un peu comme une trahison. C'est, moi, je pense que ça peut nourrir, mais... Ouais, imaginez que vous bossez avec quelqu'un, et puis soudain, la personne vous dit, ben, j'ai une autre carrière, en fait. Peut-être que vous seriez inquiet quant à ça. On n'a qu'à voir, déjà, quand les employeurs entendent qu'il y a un bébé qui arrive, c'est la catastrophe. Alors là, c'est deux bébés. Et pas des moindres. Johanna demandait si le rapport à ma fille et le fait d'avoir une enfant du coup dans ma vie de peintre avait nourri ma peinture. Et en effet, c'est le cas parce que il y a un rapport au temps quand on est avec son enfant, et eux-mêmes ont un rapport au temps qui n'a rien à voir avec le nôtre. Et quand ça m'est arrivé de peindre avec elle et de me rendre compte qu'elle pouvait passer 3 heures à mélanger de la peinture. Et après, faire toc-toc et c'est fini. Voilà. Et quand je m'amuse avec elle, j'adore voir cette spontanéité ou cette incohérence par rapport entre le temps de préparation et ou l'inverse, hein, parfois. Mais du coup, le côté ludique et détaché de l'objectif final, ça, je trouve ça assez génial. En fait, c'est s'autoriser à ne pas avoir d'objectif. Et ça, je trouve ça génial. Et typiquement, bah, l'enfance, c'est exactement ça. Voilà. Et il y a quelque chose que les enfants arrivent à faire qui me fascine, c'est... On dirait qu'ils ont des gestes aléatoires. Nous, je pense que c'est parce qu'on a appris à écrire, on a appris à tenir une raquette, à tenir un couteau, à tenir... En fait, on ne peut pas faire des gestes qui ressemblent à rien, ça n'existe pas. Ils auront toujours une structure, une forme, voilà. Et les enfants, ils arrivent à faire des... Il n'y a que les enfants qui arrivent à faire des gribouillis parfaits comme ça. C'est cette forme d'abstraction totalement dénuée de logique. Et ça, ouais, ça m'a inspiré. Ouais. Comme je ne suis pas marin, j'avais besoin de comprendre ce que je peignais avant de le peindre pour justement pas risquer de faire une énième marine comme on en voit plein avec la mer et les vagues et le bateau. Et je pense que le fait de, peu à peu, j'apprends à connaître le bateau, à savoir comment ça s'appelle, l'artimon, le grand voile, le foc, le clin foc, le machin. C'est un 10 coups entier ce truc, c'est un fou, c'est de la folie. Et à le vivre et à comprendre à quoi ça sert et tout ça. Donc ma compréhension peu à peu change, et du coup je pense que la façon que j'aurai de le représenter le jour où ça arrivera sera plus sincère, et en tout cas ce sera pas factice. Ouais. C'est comme rencontrer la personne qu'on va peindre, c'est à peu près du même acabit. Au fur et à mesure du temps, j'ai construit mon style et ma façon de peindre, et donc quel que soit le sujet finalement, je vous montrerai après des tableaux. C'est vrai que quel que soit les sujets, même sur le club d'Arsenal typiquement, on reconnaît ma patte. C'est peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, c'est tout le travail qu'il y a eu en amont qui fait que quel que soit le sujet que je peins maintenant, je crois qu'on peut reconnaître mon style. Et ça, de toute façon, c'est aussi une approche de la figuration qui vient de l'impressionnisme, où en fait, il ne s'agit pas d'aller dessiner comme ça, mais où les touches de peinture sont appliquées sur le tableau et que la figuration ne vient qu'après. Donc en fait, finalement, peu importe le sujet. Moi, bien sûr qu'il y a des sujets de prédilection et j'ai des thèmes de prédilection qui reviennent dans ma peinture très souvent, mais en fait, le sujet n'a pas vraiment d'importance dans la façon dont on aborde les choses, puisque quand je me mets à peindre, je vois des compositions, des notes de couleurs, des taches, et que ce soit un maillot de foot ou la robe d'une femme que j'aurais fait poser, finalement, c'est pareil. Puisque quand je peins, je ne peins pas un sujet, je peins un tableau. Et peu importe le sujet. Après, oui, moi, j'ai mes sujets de prédilection. Je pense que j'ai besoin de peindre et ça me manque quand je ne peins pas. Et ça m'a fait mal quand j'ai... Tant que c'était une tension dans mon couple et dans mon projet, parce qu'en fait, je n'avais pas encore admis le fait que j'avais rejoint Ben dans l'aventure et que ce n'était pas provisoire finalement parce que ça allait durer. Ça me faisait mal et ça me donnait envie de tout plaquer pour retourner peindre. Et c'est arrivé que j'ai dit, j'ai une peinture. Et là, ça va mieux parce que maintenant, je sais que je vais organiser les choses de sorte que ce soit temporaire. Et maintenant, je le vis presque comme un moment de tension où c'est un peu comme un arc qui se tend et où enfin, quand je peux me remettre à peindre, paf, ah. Et là, c'est du coup, ce qui sort, c'est mieux, c'est plus maîtrisé, c'est avec tout l'enthousiasme de la retenue qui a précédé et ça devient quelque chose de positif. Mais c'est parce que je l'ai transformé en quelque chose de positif. Sinon, ça pourrait vite virer à la souffrance le fait de ne pas avoir le droit de peindre au quotidien. Ouais. Je tâtonne. Et puis là, je me dis, ah, là, il y a un truc. Et c'est comme ça que généralement, je commence une série. Donc, j'ai fait une série sur... quand je suis arrivée à Marseille, j'ai fait une série sur Marseille. Pendant cette série sur Marseille, j'ai eu l'opportunité de pouvoir peindre dans le musée. Enfin, non, j'ai pas peint dans le musée. De pouvoir faire poser ma modèle dans le musée des Beaux-Arts qui avait été vidé, enfin qui était, pardon, pas vidé, fermé au public. Et du coup, j'ai pu y aller avec ma modèle faire des photos pendant une journée. Et là, en fait, il y avait de quoi faire 12 millions de tableaux. Enfin, j'aurais pu ne jamais m'arrêter. Du coup, ça, c'est devenu une série, musée des Beaux-Arts. Après, j'ai refait une série de portraits. Après, j'ai fait une série sur l'été. Et à chaque fois, c'est en cherchant, je fais des tableaux. Et puis, de temps en temps, je sens quelque chose qui me plaît. Ça clique. Et là, j'ai envie de le décliner dans une série entière. Et là, d'ailleurs, il y a les calanques qui me titillent, mais il y a aussi le 19e. Alors, je ne sais pas encore sous quel angle exactement, mais j'ai un énorme amour du 19e. Et j'ai envie de refaire un truc avec ce 19e. Je ne sais pas comment exactement quoi, mais voilà, ça fait partie des choses qui bouillonnent. Les conditions pour peindre sont quand même assez exigeantes parce qu'il faut une lumière du nord. Pour que la lumière soit la plus constante possible, parce que si on a une lumière est-ouest, la lumière passe du blanc au jaune et avec toutes les variantes, du coup c'est comme si le tableau changeait en permanence. Donc pour peindre, il faut une lumière qui soit le plus neutre possible, donc la plus stable c'est celle du nord. Donc il faut beaucoup de lumière, mais celle du nord. Et là ici, ce serait forcément de la peinture sur le motif, et donc sur des laps de temps qui sont très très courts, puisque la lumière change surtout ici, et donc en l'espace d'une demi-heure, on passerait d'un jaune à un orange, et voilà, donc ça marche pas. Mais ouais, ce serait romantique, j'adore l'idée de pouvoir peindre à bord. Il n'est pas assez gros pour pouvoir peindre à bord. Pendant une très longue plage de temps, ma modèle a été Chloé, qui travaille avec nous, qui est notre bras droit dans la gestion de l'entreprise. Comme quoi, le mélange des genres, c'est vraiment un truc global. Et j'ai rencontré Chloé il y a 5 ans. Et elle devait au départ bosser uniquement comme assistant pour ma peinture. Et il se trouve qu'elle est superbe. Et à chaque fois que je faisais venir un modèle et que Chloé était là pour mettre un chapeau ou mettre une robe, je disais non, reste là. Et puis petit à petit, en fait, j'ai plus appelé de modèle. Et en fait, c'est Chloé qui a posé. Et puis comme je l'apprécie beaucoup et qu'elle a confiance en moi, on a fait plein de séances de pose. Du coup, on a continué. Elle était à la fois assistante de ma peinture et modèle. On a une relation qui est très forte. Et je suis très contente qu'elle ne soit pas là ce soir parce que j'aurais été très, très, très gênée. Mais j'ai un respect infini pour elle et pour son travail. Et il se trouve qu'on continue le mélange des genres parce que c'est elle qui bosse avec nous pour Don du Vent. Donc, notre quotidien peut passer de... Voilà, c'était les sardines et le GIGN, mais ça peut être... un truc qui me vient très très souvent à l'esprit, c'est quand on était au musée des Beaux-Arts, elle posait donc nue, et le téléphone a sonné une fois, deux fois, trois fois, et puis elle a fini par décrocher le téléphone, et puis c'était un truc qui était coincé aux douanes, et donc wow, you know, all the paperwork, c'est genre non, voilà, un coup de fil hyper professionnel, et elle était toute nue dans le musée des Beaux-Arts, et je me disais, bon, ouais, j'ai quand même sacrément de la chance d'avoir quelqu'un qui est aussi. Ouais, aussi pro, aussi flexible, et surtout qui a confiance, parce que je pense que c'est aussi ça, c'est pas qu'elle est folle, c'est qu'elle a confiance et qu'elle sait que il n'y a pas de problème, quoi. Donc oui, il y a eu une relation avec les modèles toujours, toujours forte comme ça. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose de la recherche de... Je mets toujours un peu de moi dans les tableaux. C'est que je pense que les premiers romans, ils sont toujours un peu autobiographiques. Et je pense que je suis encore dans cette période de ma vie où je me mets un peu toujours dans les tableaux. Et c'est aussi pour ça que quand je détache, la dernière série sur Venise était totalement dénuée de personnages. Je pense que le confinement m'avait fait du bien aussi. Et donc il n'y a plus personne. Et je vais tendre vers des choses comme ça pour me détacher un peu des modèles. Essayer de plus, peut-être me mettre un peu, enfin j'ai moins besoin de me mettre partout en tout cas. Et je dois dire que j'ai souvent accompagné le mouvement grâce à mon activité secondaire qui est ma carrière artistique. Ouais. Je plaisante en disant ça, hein, mais ouais, c'est assez surprenant de... Ouais. Bah, forcément l'année 2020 n'était pas une année dingue et heureusement qu'il y avait ma peinture. Ouais. Et je pense que ouais, c'est... Ouais, c'est une vraie question parce qu'en fait on ne se la pose jamais dans le couple. Pour mes tableaux, grosso modo, donc entre les plus petits, j'ai mis deux petits tableaux là qui sont des études en fait, qui sont à l'arrière pour que vous puissiez voir à peu près ce que donne la matière parce qu'il y a des bouquins, mais des bouquins c'est des photos. Donc pour que vous puissiez voir la matière, donc ça c'est des petites études. Grosso modo, ces petites études là sont à 500 €. Les premiers tableaux sont autour de 1 000 €, des tableaux en A4 à peu près, même si c'est pas le format exact, mais pour vous donner une idée. Et les plus grands font entre 100, 150, 1,50 m, 2 m et sont entre 6 et 8 000 € pour les plus chers. Ouais. La cote d'un artiste, il y a deux modes de fonctionnement pour une cote. Il y a le prix d'un artiste qui est défini sur le marché, qui est en fait... Il faut comprendre que le marché de l'art, c'est le marché le plus libéralisé du monde. C'est celui qui a le moins de législation, le moins de codes, le moins de... C'est un peu le Far West. Donc grosso modo, c'est si ton tableau se vend à ce prix-là, bah, c'est son prix. Donc c'est très absurde et tautologique comme raisonnement. Sauf qu'au-delà d'un certain prix quand même, il faut être validé par des acteurs qui comptent. Dans cet écosystème-là, eh ben, plus les galeristes sont connus, plus ils ont un pouvoir prescripteur sur le prix du tableau qu'ils donnent. Quelqu'un comme ma mentor aussi, qui est aussi en elle-même une institution, a un pouvoir sur le prix. Et elle a fait partie des premières personnes qui m'ont dit « Bon, bah voilà, ce tableau-là, tu vas le mettre à vendre tant. » Voilà. Et donc, c'est ça. C'est, en fait, on est validé peu à peu par des gens dont la reconnaissance sur le marché compte. Mais il n'y a pas de système officiel. Et après, il y a ce système de cote par le second marché, quand on passe en enchère, où là, il y a un système de cote où on dit, bah voilà, sur le second marché, il a été vendu à temps. Et ça, ça crée une autre forme de cote, en fait. Mais c'est un drôle de marché, ce marché de l'art. C'est vraiment, je pense que dans quelques décennies, on dira, mais c'était vraiment le Far West, où tout le monde arrive avec son petit bâton, ouais, planter le bâton. Et c'est comme ça que les prix se forment, quoi. Et c'est le marché aussi où la valeur du produit est la plus déconnectée de la valeur intrinsèque du produit. Il y a une dichotomie parfaite entre la valeur du tableau et sa valeur sur le marché. Concrètement, la valeur d'un tableau, c'est de la peinture et de la toile, et du temps, bien sûr, mais les prix n'ont rien à voir avec ça. C'est totalement déconnecté, décorrélé. Et moi, j'avoue que j'aime assez bien l'idée... J'ai d'ailleurs très très longtemps dit que j'étais peintre et pas artiste peintre. J'aimais bien l'idée d'être peintre. Ah. C'est ça, c'est peintre en fait. Parce que j'aime bien le côté artisanat en fait. J'aime bien ce côté. Maintenant, je dis je suis artiste peintre parce que bah j'assume. Mais à l'époque, je disais je suis peintre parce que j'aimais bien l'idée qu'il y ait quelque chose qui relève du travail, de l'artisanat, du savoir-faire, et ça comptait beaucoup pour moi. Un jour, j'ai donné des cours. Alors qu'elle-même est prof et que voilà, donc elle a toujours suivi ma peinture, elle a toujours beaucoup aimé ma peinture, elle a toujours beaucoup corrigé ma peinture, jusqu'au jour où elle s'est arrêtée de le faire parce que ben on a arrêté ce mouvement de maître-élève, enfin on a un peu arrêté. Et un jour, c'est une femme de pouvoir, hein, tu vas pouvoir le comprendre. Un jour, je lui ai dit, I'm giving classes, j'étais à New York, I'm giving classes to a few students, voilà. Elle m'a regardée, elle m'a dit, What could you possibly teach? Voilà. Voilà. Donc, ben, j'étais très vexée d'abord. Et puis après, je me suis dit non, bah en fait, elle est pas contente, quoi. En fait, elle est... Voilà. Et ça a changé la relation et ça a évolué vers quelque chose qui est maintenant plus proche d'une amitié entre peintres, où on respecte chacune le travail de l'autre et où il y a plus ce rapport-là de... Voilà. Ouais, ça m'a fait mal ce jour-là. Je sais pas, il y a peut-être des gens pour lesquels ça se passe bien, mais je me dis que pour accepter d'être peintre, il faut déjà au départ, je crois, avoir un ego bien... Voilà, donc forcément, c'est des métiers d'ego. Et donc, je pense que, ouais, les gens... En plus, ça correspond avec, généralement, un vieillissement, parce que, voilà, donc on voit l'autre qui progresse, qui arrive à un statut important, qui commence à avoir de la reconnaissance, et ben... Il y a des mamans qui le vivent bien, il y a des mamans qui ne le vivent pas bien quand leur fille... voilà, et ben là, c'est pareil, je pense que c'est de cet ordre-là, je crois. Bon, cela dit, on est restées copines. Hein. J'ai pris ma claque et je suis passée à autre chose. Ouais. Je crois que j'ai jamais encore atteint le... Oh, pff, j'ai plus le truc de peinture. J'ai jamais encore atteint le... Trop de peinture. Ça... Non, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de peinture. Si, une fois à la fin de ma commande, là, j'ai dit je suis comme un tube de peinture vide. Mais en fait, il m'avait épuisé parce que c'était des allers-retours permanents sur des corrections de tableau. Là, c'était une fatigue qui était différente et que la saison commençait. Donc, il y avait cette tension de l'autre côté qui, voilà. Et oui, à la fin de la commande des 14 tableaux pour New York, là, j'ai dit je suis comme un tube de peinture vide. Mais sinon, généralement, surtout quand c'est sur des projets plus perso, j'en ai jamais trop. Mais j'ai appris aussi quand même à faire autrement que... Je m'occupe de ma fille aussi. Là, il se trouve que c'était le commanditaire. Donc, il faut trouver le bon compromis entre ma liberté et ma satisfaction artistique et sa satisfaction à lui. Donc, généralement, de toute façon, on n'en fait qu'à sa tête, mais on fait le nombre de modifs nécessaires pour que la personne soit contente. Mais voilà, après, c'est des histoires. Là, c'était bêtement des histoires de couleurs. De chartes de couleurs qu'il m'avait donné, que j'avais pas respecté, mais bon, c'était de ma faute aussi, hein. Mais le regard sur la peinture, c'est quelque chose qui est en effet de toute façon c'est très étrange, parce que je n'ai jamais le même regard que les gens ont sur ma peinture, et je suis toujours hyper étonnée de voir les réactions des gens, ce que ça évoque chez eux. Il y a même parfois des interprétations qui n'ont rien à voir avec ce que moi j'y ai mis. Je suis toujours hyper curieuse en vernissage de passer, d'écouter et de voir ce que les gens disent sur ma peinture, parce que c'est pas forcément les tableaux que j'ai faits. Mais c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que justement, on donne un indice et puis après, libre à la personne d'en faire ce qu'elle veut. Ce n'est qu'une piste de réflexion, en fait, c'est qu'un départ, c'est un point de départ. Dans 5 ans, j'ai trouvé une super directrice pour la boîte et moi, je suis impliquée dans les projets... Que pour dire ah oh là on va faire un projet artistique et puis là on va faire une résidence d'artiste de temps en temps sur le bateau et non j'exagère parce qu'il y aura plein d'autres choses aussi, on va pas faire que des projets artistiques, mais donc ouais, bien pris du recul sur la gestion des bateaux. On a trouvé un troisième capitaine pour l'entreprise. Ben peut passer plus de temps avec nous et je passe plus de temps à peindre sur des projets plus perso. Voilà, je pense que c'est bien. C'est possible. faut que je m'organise. Merci à vous. Je suis hyper touchée de tout ça. Merci beaucoup.